Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca.
Hey, bienvenue dans Yann et Frank. Aujourd'hui, on soit Éric Duhaime, l'Albertain, le méchant démon qui est allé parler à la démon Daniel Smith. Yes, Eric, grosse semaine médiatique de ton côté. Tu es allé faire une tournée en Alberta. De retour hier, passe dans le podcast de Mathieu Bock-Côté. Sérieusement, ça a brassé beaucoup. Tu as amené beaucoup de points sur la table. Tu as réussi à faire parler de toi dans les derniers jours. Je vais te laisser nous faire un petit wrap-up de ton voyage. Qu'est-ce que tu es allé faire là? Je veux dire, tu cherchais du pétrole?
Non, je n'étais pas ni la ruée vers l'or. J'étais là parce que je voulais parler d'autonomie. On sait qu'au cours des dernières années, l'Ouest canadien est devenu la région autonomiste du Canada. Historiquement, ça a toujours été le Québec qui était très autonomiste. Mais avec François Legault, il faut dire qu'à part d'envoyer des lettres protocolaires qui se ramassent dans des chiqueteuses au bout de 10 minutes à Justin Trudeau, il n'y a à peu près rien qui s'est passé sur le front de l'autonomie. Alors qu'en Alberta, il s'est passé des choses très importantes. Daniel Smith, l'année dernière, a adopté un projet de loi, la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. La Saskatchewan, à côté, a adopté un projet de loi qui va dans le même sens, Saskatchewan First. Ils sont allés devant les tribunaux, ils ont gagné contre le gouvernement fédéral. La Saskatchewan, depuis le début de l'année, ne perçoit plus la taxe carbone fédérale sur son territoire. Je veux dire, ils ont agi comme des autonomistes qui disent « gars, vous empiéterez pas dans mes compétences », alors qu'au Québec, il se passe rien. Fait que je voulais aller les voir, je voulais tendre la main, parce que le débat constitutionnel s'est réinvité au Québec. Hein. On l'a vu la semaine passée, vous avez vu le photo-op entre Denis Coderre et Paul Saint-Pierre Plamondon. C'était la journée de la Saint-Valentin, comme par hasard, qui ont célébré leur bromance. Et ça démontre comment ces gens-là veulent un référendum. Ils sont déjà dans une campagne référendaire. Denis Coderre n'est même pas encore élu chef du Parti libéral, mais il a déjà choisi le slogan du camp du non. Il a déjà enfilé son habit du capitaine non avec tout en rouge et Paul Saint-Pierre Plamondon tout en bleu. Puis c'est pas ça dont les Québécois veulent entendre parler. Il n'y a pas d'appétit pour un référendum. Puis de toute façon, s'il y en avait un, les souverainistes présentement le perdraient. Fait qu'il y a pas, on n'a aucun intérêt à embarquer dans cette dynamique-là, mais on a intérêt à défendre nos compétences puis à faire avancer le Québec. Ça, mais c'est en tissant des liens avec le reste du Canada. Puis c'est pour ça que je me suis en allé en Alberta. J'ai été passé 4 jours en Alberta au cours de la semaine dernière.
Parce qu'on le sent actuellement, en tout cas, on dirait que la stratégie, si on peut appeler ça de même, du gouvernement Legault, ça a été pendant un temps de dire qu'il était ami-ami avec Doug Ford. Là, c'est comme tranquille depuis un bout, là, surtout depuis qu'il a suspendu la taxe sur l'essence, puis qui a été très dur avec certains trucs certaines positions du gouvernement fédéral. Là, tout d'un coup, c'est tranquille, Doug Ford. Il ne l'appelle plus pour savoir pourquoi il est aussi bon que ça. C'est comme tranquille de ce côté-là. Mais, tu sais, dans le fond, il y a comme deux positions qui nous sont mises devant nous. C'est soit la position de la CAQ qui, quand tu lui parles du reste du Canada, c'est le pétrole sale de l'Alberta. Puis c'est comme une genre de position un peu celle que le PQ avait traditionnellement, mais sans parler de référendum. Puis t'as le PQ qui veut redécoller ce débat-là, mais qui est artificiellement... On sent vraiment que cette fois-ci, puis j'en parlais hier encore, moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est entièrement médiatique. Là.
Oui.
C'est-à-dire que, tu sais, moi, je me suis fait raconter par des gens qu'en 1980, le soir du référendum, les gens pleuraient, là. T'sais, des gens dans leur cuisine, tout ça, puis ça regardait les résultats en pleurant. Je me souviens, enfant de 95, de l'effervescence qu'il y avait, tout ça. En ce moment, moi, dans la rue, personne ne me parle du pays puis du référendum. Et tu parlais de Denis Coderre. J'ai vu dans Québécois, il y avait un article de Rémi Nadeau qui disait « Ah, c'est une tournée d'adieu pour une star déchue ou je sais pas quoi. » Oui, mais la tournée d'adieu, c'est pas le Parti libéral qui l'a décollé, c'est le PQ, là. Fait que toi, tu dis, en contrepartie de ça, finalement, la solution, c'est de dire « contre le gouvernement fédéral », entre guillemets, ou « contre le fait que le gouvernement fédéral empiète sur les compétences des provinces », notre intérêt véritable, en fait, ce serait de nouer des alliances avec les autres provinces qui ne sont pas nos ennemis. Là. L'Alberta n'est pas l'ennemi du Québec.
Non. Au contraire, c'est probablement la province la plus proche de nous. Puis c'est pas d'hier. Là. On peut repenser à l'époque de Peter Lloyd, René Lévesque. Là. Puis moi, j'étais assez vieux me rappeler justement des soirs de référendum dont tu parles. Là. Moi, le 20 mai 80, j'étais dans le salon de mon grand-père paternel avec la famille, puis tout le monde braillait. Là. Moi, j'ai vécu ça, là, les familles en deuil parce que les résultats du référendum étaient rentrés, puis le nom avait gagné. Puis je pense que ça a déchiré beaucoup le Québec, ça a beaucoup divisé le Québec. En 95, la même chose. Puis la dernière chose dont on a besoin présentement, c'est recommencer à se diviser. Puis quand vous dites que c'est une fabrication médiatique, bien, c'est pas une théorie, là. Regardez les chiffres. Le Parti québécois gagnerait l'élection avec 31 % des votes s'il y avait une élection aujourd'hui. OK, 31, peut-être 32 %. C'est parce qu'il y a eu une époque, là, en 85, 89, le PQ, avec 40 % des votes, mangeait des volées historiques. OK? Fait que c'est juste la seule raison pourquoi le PQ prendrait le pouvoir, c'est parce qu'on est divisé en 5 au lieu d'être divisé en 2 en termes de partis politiques à l'Assemblée nationale. La deuxième chose, quand on regarde les intentions au niveau de la souveraineté, les intentions de vote, c'est 35 % en faveur. Ça aussi, c'est une dégelée qui est encore pire que 80 puis bien, bien pire que 95. Donc, ils sont tellement référendistes là, qu'ils sont prêts à faire reculer le Québec pour avoir un référendum. C'est un jusqu'au boutisme qui est... Puis ils savent en plus, là, les chiffres que je viens de vous donner là, c'est pas secret, là, c'est pas juste moi qui viens de découvrir ça matin. Là. Je veux dire, ça fait des mois, ça a pas bougé. Là. Les intentions de vote en faveur de la souveraineté ont jamais été au-dessus de 40 % depuis des années, des années, des années. Et là, malgré ça, ils veulent quand même la tenue d'un référendum à tout prix. Puis moi, c'est ça qui me désole, tu sais. Qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, là, ça n'a aucune espèce d'importance. On est d'abord et avant tout des Québécois. Puis si on regarde l'histoire, au lendemain du référendum de 80, le Québec a reculé. Le Québec s'est fait imposer un rapatriement de la Constitution de façon unilatérale contre la volonté de l'Assemblée nationale. La même chose est arrivée après 95. On s'est fait imposer une loi sur la clarté qui a limité nos pouvoirs dans l'avenir quant au fait de décider qu'est-ce qu'on a d'appartenance au Canada. Et moi, j'ai pas envie de vivre un troisième référendum où le Québec va se diviser et qu'on va encore reculer. Et c'est ça que je crains avec l'approche des caribous actuellement. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon, il veut nous amener dans le mur. Puis ce qui est encore plus dangereux, c'est que du côté du Parti libéral du Québec, étant donné qu'ils sont menacés par l'arrivée de nouveaux partis politiques, bien, ils sont prêts, eux autres, à embarquer dans le jeu. Puis là, ils mettent de l'huile sur le feu pour qu'on ait un référendum, parce que Denis Coderre se voit déjà comme le champion du Canada. Fait qu'on a vraiment une situation qui est polarisante, qui est dangereuse. On veut plus retourner là-dedans. Ça fait 20-30 ans qu'on a essayé de sortir du débat entre les oui et les non. Puis là, eux autres sont en train de nous replonger là-dedans, là, comme si on était le 20 mai 80.
C'est juste à voir si vraiment la sauce va coller. Parce que tu vois, la semaine passée, ça a été vraiment un gros enjeu dans notre podcast. On a fait un rant assez intense au niveau constitutionnel, si on veut. Tu sais, le point qu'on avançait, c'était... tout le monde nous parle de souveraineté, personne ne parle même de souveraineté de l'individu. Je veux dire, nos libertés sont attaquées à tout bout de champ. Puis là, un moment donné, avant de nous parler de référendum, vous allez nous écrire votre constitution, puis je veux savoir si je vais être plus ou moins libre dans le Canada, dans le pays du Québec tant qu'à ça, parce que sinon, parlez-en même pas. Là, c'est un peu notre point. Puis tu sais, comme d'habitude, on fait des shorts avec ça, mais ça, c'est une différente plateforme, puis on connaît nos plateformes. On sait, par exemple, que TikTok, c'est une plateforme qui est très, très, très jeune. C'est beaucoup du moins de 30 ans qui est là. Puis, j'ai été vraiment surpris. Là. On avait comme 140, 150 commentaires sur cette vidéo-là. Puis, on avait trollé au fond. Là. Frank, quand il a fait le montage, il avait mis une photo de la reine puis une photo des rocheurs. Tu sais, c'était méga troll, notre affaire. Et surprenamment, 80-90% des commentaires allaient dans notre sens. Que ouais, vous faites bien de le dire. Ça n'a pas de sens, vos affaires de constitution. Fait qu'on... La plateforme où est-ce qu'on a le public le plus jeune... On sentait vraiment pas que la souveraineté, ça collait dans le débat. Fait qu'à un moment donné, t'es là, c'est comme la mauvaise arithmétique. Tu sais, on dit, OK, là, le PQ est à 32 %, Québec solidaire sont à 15-16 %. Fait que les deux ensemble, c'est proche 50, c'est deux partis souverainistes. Non, t'as peu. Fouille un peu. 25 % des gens qui voteraient PQ présentement sont même pas souverainistes. Là. C'est un vote de protestation.
Ouais. La moitié des QS ne le sont pas non plus.
58 %. Il y a plus de souverainistes à la CAQ qu'à QS. Ça, c'est une autre affaire dont on ne parle jamais. Là. Mais QS, c'est tout sauf un parti souverainiste. La seule chose qu'ils veulent, c'est s'asseoir avec Paul Saint-Pierre Plamondon, puis tenir la main, puis s'asseoir Hugo Gazal, puis Gabriel Nadeau-Dubois qui écrivent, puis peut-être Sol Zanetti qui écrivent la Constitution du Québec dont tu as tant peur. Puis effectivement, tu as raison d'avoir peur. Puis l'aspect générationnel, tu sais comment c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Et c'est une des raisons pourquoi moi je pense qu'il faut absolument pas qu'il y ait de référendum, parce que on ne fait pas un pays contre la volonté de la prochaine génération. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie dans le camp du oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont nostalgiques de 1980, puis qui veulent voir le pays, puis réaliser le rêve de René Lévesque avant de mourir. Tu sais, il y a beaucoup de ça là, dans le vote péquiste à l'heure actuelle. Là. Puis tu bâtis pas un pays par nostalgie du passé. Tu le bâtis normalement pour l'avenir. Et donc, leur raison même de vouloir et de souhaiter le grand soir est mauvaise. Il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment pas souhaitable.
Puis, c'est l'inverse de 1980, en plus, hein, qui à l'époque, c'était les jeunes boomers qui à l'époque étaient faisaient partie de la jeunesse qui portaient ce projet-là, et c'était les personnes âgées. On se rappelle des histoires du Parti libéral qui allait dans un foyer de personnes âgées, lui disait qu'il n'y aurait plus de pension puis tout ça. T'sais, c'était plutôt les jeunes qui portaient un projet contre les personnes âgées qui étaient plus du côté du statu quo, qui n'en voulaient pas. Mais là, c'est... Tu sais, moi, je veux bien embarquer dans n'importe quel projet de société qui a de l'allure, mais c'est parce que moi, comme tu dis, on n'embarquera pas dans un bandwagon qui est poussé uniquement par la nostalgie. Mais tu sais, Québécois est en mission. Là. Ça, c'est l'article dont je vous parlais tantôt. Là. Je ne l'ai pas inventé. Tu sais, Denis Coderre est déjà l'ennemi public numéro un parce que dans le casting de la tournée d'adieu, tu sais, ça prend les bons, ça prend les méchants. Puis toi, ben c'est ça. Le voyage en Alberta, c'est pour essayer de commencer à tisser des... Ben, c'est des liens qui étaient déjà tissés. Là. Toi, Daniel Smith, tu le connaissais déjà, dans le fond.
Je connais Daniel Smith, sauf qu'elle n'était pas première ministre de l'Alberta, puis elle n'était pas dans une position de force comme elle est présentement. Là, elle est vraiment la championne de l'autonomie. J'y ai même parlé. J'ai essayé de la convaincre, puis je pense que j'ai pas mal réussi là, qu'on puisse se rencontrer au mois d'avril avec certains chefs de partis conservateurs des autres provinces, puis qu'on commence à parler d'autonomie tout ensemble. C'est important parce que quand on est conservateur, quand on a des convictions un peu plus à droite du centre, on veut le pouvoir le plus près de l'individu possible. Ouais. Tandis que la gauche veut toujours des gouvernements nationaux ou supranationaux très forts, puis ils veulent toujours centraliser, puis ils veulent toujours que les gens soient soumis à des dictats, puis que ça soit un one size fits all. Là. C'est des règles qui s'appliquent partout, le plus universel possible. C'est pour ça qu'ils poussent même, ils voudraient même eux autres, un gouvernement mondial, ils trouveraient que c'est une bonne idée. Là. Donc, il y a quelque chose de très conservateur d'en vouloir décentraliser. Puis c'est ça qui est un peu bizarre, parce qu'au Québec, notre mouvement nationaliste, il est à gauche. En partant, il y a quelque chose qui marchait pas depuis le jour 1 du PQ. Normalement, quand tu veux rapprocher le pouvoir de l'individu, puis tu parles de liberté, tu es à droite. Et eux, ils ont pris un chemin un peu bizarre. Et aujourd'hui, on se ramasse devant le cul-de-sac dans lequel on est. Puis moi, je veux pas, je refuse qu'on les laisse gagner le terrain sur lequel on va se battre. C'est un peu ça l'enjeu actuel. Là. Est-ce qu'on va les laisser nous imposer un référendum dont la population ne veut pas? Puis comment on peut bloquer ça? Fait que c'est un peu ça. C'est pour ça que je tisse des liens. Puis j'ai hâte de voir comment la population va réagir. Écoute, on a fait des sondages, vous avez aucune idée, là, mais c'est, je veux dire, 80-90% des gens, quand tu leur dis « voulez-vous un référendum », ils disent non. Alors que de l'autre bord, tu as une classe politique puis médiatique qui sont obsédés par ça, qui sont obnubilés par ça. Déconnecté. Si je fais des conférences de presse, quand je parle d'économie, là, j'entends des mouches voler dans le fond de la salle. Quand je parle de constitution, là, je les vois, ils salivent, puis c'est faut les retenir. Là. Fait qu'il y a comme une déconnexion totale en nos élites politiques puis médiatiques le peuple québécois à l'heure actuelle.
Joey, tu avais une question.
Ouais, ben Éric, tu trouves-tu pas qu'il y a comme une méga contradiction, comme tu le dis dans le discours du mouvement souverainiste? Parce que, tu sais, on le sait, l'indépendance, pour plusieurs, c'est quasiment le summum de l'expression de la liberté, l'autodétermination des peuples. Mais là, comme tu le dis, on a un mouvement très, très, très à gauche. Fait que très, très du côté de l'égalité, non pas de la liberté. Fait que d'un bord, t'es comme, oh oui, on veut être libre, mais, tu sais, j'ai écouté des entrevues de PSPP plein pour mes bulletins de nouvelles que je fais pour les Patreons. Puis, tu sais, c'est tout le temps, genre, au nom du bien collectif et au nom de, c'est ça, le bien des Québécois et tout ça. Et une affaire que je veux t'entendre aussi, parce que PSPP avait été en entrevue avec Bob Côté quelques semaines avant toi, et Bob Côté, il avait carrément dit, il dit, écoute, en 95, dans le camp du oui, il y avait Françoise David, il y avait quelques autres, puis il y avait aussi Éric Duhem. Il dit, comment tu penses-tu faire pour ramener tous ces gens-là au bercail? Puis le seul argument qui est sorti, ben, ah, ben le temps voulu, il va falloir que les gens fassent leur devoir de citoyen, puis ça. Moi, ce qui me flabbergasse, puis autant que tu sais plus que... Je te l'avais déjà dit, j'étais assez clair là-dessus, autant que je me lis au PCQ, mais je suis indépendantiste pareil, c'est qu'ils ont aucun... Ils essaient même pas de nous convaincre. C'est vraiment en mode chèque en blanc, puis donnez-nous vraiment 100%, puis inquiétez-vous pas, on va faire ça de la bonne manière après. Là.
Quand tu parles de liberté, là, rappelez-vous que les deux gros sujets là, de PSPP dans les derniers mois, ça a commencé un peu avant Noël. Là. Ils disaient que c'était à la faute des épiceries si on oui. payait trop cher notre facture. Là, quand on allait faire notre épicerie, c'était à la faute des propriétaires de métro oui. et d'IGA de ce monde. Puis ils voulaient faire une espèce d'organisme de contrôle là, pour s'assurer qu'il n'y a pas, qu'il y a pas de collusion. Puis ils accusaient, puis c'est des accusations graves, là, c'est criminel. Là. Ils accusaient carrément de comploter pour essayer de fixer les prix à la hausse. Fait que, en partant, tu vois, sa compréhension du marché, là, même son conseiller, là, Vincent Gélozo, est obligé de sortir et de dire un instant, là, ça marche pas, ton affaire.
C'était pas fin pour Vincent, ça.
Non, mais écoute, c'est lui qui l'a conseillé. C'est pas lui qui avait ce budget dans un. Moi, je veux pas me dire contre personne. Là, j'aime beaucoup Vincent. Mais, puis après ça, rappelez-vous, il y a quelques jours, il était en train de dire que c'était à la faute des banques, les taux d'intérêt sont trop élevés, ben que lui va contrôler les taux d'intérêt. C'est parce que là, tu te dis, attends une minute, là, qu'est-ce qu'il connaît l'économie, ce gars-là? Voulez-vous vraiment donner les clés de char? C'est comme, voyons donc.
Oui, puis oublie pas une autre affaire, Éric, il voulait aussi que le gouvernement contrôle le temps d'écran des enfants.
Ben oui.
Ça, c'est... Fait que, tu sais, tu prends ces trois exemples-là, tu dis, OK, moi, je suis censé croire que dans un pays designé par ces gens-là, je vais être plus libre. Toutes les annonces qui sont faites, c'est pour m'enlever un petit bout de liberté.
Des petits bouts, des minuscules morceaux.
Oh, et puis, franchement, c'est pas si grave que ça, là, tu sais. De toute façon, les enfants, ils ont pas besoin de ça. Un téléphone, qu'est-ce que ça te dérange qu'on leur enlève ou qu'on leur interdise à l'école ou si et ça? Ben, c'est pas que ça me dérange ce point-là en particulier, c'est que si tu additionnes tous les petits bouts de liberté qu'on enlève à la fin, il reste plus rien. Là.
Non, leur discours sur la liberté n'est pas crédible. Puis là, je ne retournerai pas dans la crise sanitaire, mais vous savez que le PQ n'était pas mieux que la CAQ, il était même bien pire à certains égards. Fait que je veux dire, c'est pas un parti de liberté. C'est un parti qui dit Québec libre, mais quand tu dis Québécois libre, là, il décroche. Puis c'est ça qui ne marche pas dans le PQ actuel. Puis à une certaine époque, là, c'est vrai que le Parti québécois était plus une coalition, c'est-à-dire qu'il y avait des gens de toutes les couleurs, puis ils se disaient, après le référendum, on décidera si on vire à gauche ou on vire à droite. Mais aujourd'hui, nommez-moi-en des gens de droite qui sont dans le Parti québécois, ou même au Québec solidaire, ces gens ne voient pas. Là. Ces gens-là n'ont que de préconditions qu'à gauche, et ils veulent en fait se servir de l'indépendance pour qu'on soit encore plus isolé et qu'on soit encore plus contrôlé par nos gouvernements. Puis c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens à droite du centre. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'ils sont incapables de monter à plus que 35-36 là. Et puis, ils monteront pas plus. Et on ce débat-là, on va-tu perdre encore une autre décennie? Parce que c'est long, là. Ça peut être une élection ou deux, puis ça peut être, après ça, tu as le référendum, puis après ça, tu as les lendemains du référendum. On va-tu perdre une décennie de débat à débattre de ça puis à se diviser là-dessus? Ou si on se retrousse les manches puis on commence à parler des vrais problèmes. Là, on a un premier ministre qui nous a annoncé dimanche là, que le budget va être largement déficitaire. Ça n'a pas l'air à les intéresser. Puis je le mettais en relief. Là. Il parle, mettons, le français a reculé parce qu'il y aurait eu 0,02 moins pour cent depuis 5 ans ou 10 ans qui parlent français à la maison comparé à dans la région de Montréal. Puis là, les libéraux vont dire « Oui, mais les anglophones parlent plus, sont plus bilingues, fait que le français progresse. » Fait qu'ils s'engueulent avec des affaires de 0,2%, mais le fait qu'il y a 200% plus de monde qui attendent aux urgences, que l'itinérance a doublé, que le déficit va monter de 5 ou 6 milliards l'année prochaine, ça lui passe 300 pieds par-dessus la tête. Et c'est ça qui est grave, c'est que les vraies préoccupations de monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là, ils passent en deuxième parce qu'eux, ils sont obsédés par les référendums, puis ils sont en train de nous rentrer dans ce cul-de-sac-là. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut combattre ça. Puis on peut pas avoir la position, là, quasiment Elvis Gratton de Denis Coderre qui disait tout va bien. Là, c'est pas vrai. Là. Puis ça va nuire, ça va aider le camp souverainiste. Denis Coderre, on le dit, là, c'est le meilleur allié du Parti québécois. Il faut avoir une position qui dise non, on va se battre pour le Québec, nous autres, là. Puis on va se battre pour le français. Mais on va aussi se battre pour que ça aille mieux dans les hôpitaux, que ça aille mieux dans le système d'éducation, que vous ayez plus d'argent dans votre portefeuille. Et c'est ça qui est c'est d'essayer de rassembler les Québécois sur la question constitutionnelle pour se diviser sur des enjeux où ça compte vraiment.
Côté médiatique, Éric, toi et PSPP, vous avez des contraintes et des enjeux complètement différents. Les deux, vous essayez de vous faire connaître. PSPP, évidemment, les portes grandes ouvertes du côté de Québécois. Et même monté à 32 % principalement grâce à PKP. Là, soyons honnêtes, à partir de la troisième semaine de la dernière campagne électorale, le switch avait été fait. Québécois avait largué la CAQ une fois pour toutes et avait maintenant sa nouvelle marionnette.
PQ était à 9 % avant ça. Juste rappeler, ils ont eu un sondage à 9 % pendant l'élection.
De ton côté, tu as toujours une difficulté d'accès aux médias. On essaie de faire semblant que tu n'existes pas. À d'autres moments, on essaie de te présenter comme le démon, puis généralement, c'est là que tu remontes dans les sondages. D'autres moments, on essaie d'ignorer complètement. Il y a une chose, par contre, dans le média alternatif, tu acceptes à peu près toutes les entrevues. La preuve étant, évidemment, le podcast hier avec Mathieu Boccoté. La rapidité avec laquelle toi et Cédric, vous avez accepté cette entrevue-là, que ça s'est préparé, tout ça, c'était assez impressionnant. Moi, écoute, Éric, ça fait 2 mois et demi que j'essaie d'avoir PSPP en entrevue. J'écris à toutes les 2 semaines au PQ, puis maintenant, je pense que j'ai une règle automatique pour mon email s'en aille direct dans le junk. Est-ce que c'est winner à long terme, la stratégie François Legault, la stratégie PSPP, d'aller seulement dans des médias qui nous sont sympathiques ou ça vaut la peine vraiment d'aller dans des médias qui sont moins sympathiques à nous? Hier, quand tu vas à Mathieu Boccoté, est-ce que tu penses que tu es capable de faire des gains ou cette nuit?
C'est une bonne question, puis tu vas trouver ma réponse un peu bizarre, mais c'est pas quelque chose que j'évalue. Parce que je viens des médias. Là. Avant d'être en politique, là, j'étais moi-même un animateur radio pendant plusieurs années. J'ai toujours reçu beaucoup d'invités qui pensent différemment de moi, qui pensent comme moi ou que j'ai pas d'opinion sur eux ou c'est des sujets autres. Puis ça m'a toujours, pour moi, c'est une question de respect pour tout le monde, pour le public, de parler à d'autres auditoires. Et moi, ça me dérange pas d'aller parler à n'importe qui. J'accepte, tu as raison, pratiquement toutes les invitations qui me sont faites. Et je me pose même pas la question, est-ce qu'ils vont être hostiles, est-ce qu'ils vont pas être hostiles. Pour moi, je suis payé pour ça. Là. C'est mon job. Là. Nous, mon job, c'est d'expliquer les idées, d'expliquer les politiques du Parti conservateur du Québec. Puis j'ai beaucoup de difficultés à comprendre PSPP. Écoute, tu parles de qu'il a refusé de vous parler depuis des mois, puis c'est vrai. Oui, moi, il a refusé un débat contre moi. Là. Il m'a attaqué ses réseaux sociaux, puis il n'a pas eu le courage pour de venir puis de m'affronter en un à un. Là.
Il y a un peu avec la cliche Girard aussi, je pense, du côté de Québec solidaire. Il y avait eu un débat qui s'installait avec eux autres. Le setup était fait, puis il a choqué. Il n'y a pas été.
C'est quelqu'un qui a peur de débattre, qui a peur de défendre ses idées. T'sais, il veut faire un pays, puis il pourrait de débattre contre moi, puis il pourrait de faire une entrevue avec toi. Fait que, je veux dire, ça part mal. Là. Il se rattrape quand il va se ramasser avec Donald Trump en face de lui, ou avec Poilievre ou Trudeau à Ottawa, il va faire quoi? Il va se sauver, puis il va broyer. Je veux dire, s'il n'est pas capable de faire des entrevues parce, avec des gens ou de faire des débats avec des gens parce qu'il ne pense pas comme lui, on n'est pas équipé pour veiller tard. Là.
Mais Éric, donc, ça démontre pas. On l'a vu un peu avec Denis Coderre. Je ne sais pas si tu as vu, mais tu as vu l'échange plus que moi. C'est à la seconde que, au début, tu voyais PSPP, tu es bienvenu à l'Assemblée nationale, puis lui, il met le bras sur l'épaule, puis tu vois que PSPP était carrément déstabilisé. Là, on sait, Denis Coderre, c'est un genre de bon
Jean comme devant, gros Jean comme devant.
Bon Jean comme devant, c'est ça. Puis tu sais, ah ouais, mon homme, comment ça va? Puis lui, tu sais, on voit que c'est un intellectuel, puis c'est un gars très posé, puis c'est bien correct, tu sais. Grand bien lui fasse, mais on voit que quand ça sort un peu de la ligne traditionnelle, il y a de la misère à être comme naturel, si je peux dire, un peu. On dit que ça le déstabilise. En tout cas, moi, c'est le même que j'ai interprété ça. Là.
Oui, puis il était mal à l'aise, puis tu voyais qu'il voulait s'en aller. T'sais, d'ailleurs, il a mis fin à l'échange assez rapidement, puis s'en aller. Et puis tu sentais le malaise. Je veux dire, si le gars, il est pas capable de débattre, ça va, tu sais. Puis là, présentement, vous avez raison, il est comme dans une bulle, tu sais, il a été beaucoup protégé. Mais je pense que maintenant qu'il a monté dans les sondages, là, il va avoir un petit peu plus de pression, puis il va être obligé un petit peu plus de sortir de sa coquille. Et les gens vont peut-être un peu plus débattre puis se poser des questions sur le Parti québécois. Parce que, tu sais, la montée du Parti québécois, là, ça, c'est quelque chose d'autre qu'on n'a jamais parlé, là, mais c'est quelque chose quand même très intéressant. La montée récente du Parti québécois, elle s'est opérée d'abord et surtout dans la région de Québec. Okay? Oui. Et c'est là qu'ils ont gagné leur élection partielle qui les a propulsés. Si vous regardez les sondages, c'est la région aussi où la CAQ a le plus dégringolé. Hein. La CAQ s'est capotée ce qui s'est passé à Québec. Là. Ils sont passés de quoi? 52-53% à 15-16. C'est de loin la plus grosse débandade. Là. On n'a jamais vu ça, en fait, un château fort d'un parti qui s'écroule aussi vite et aussi de façon aussi significative. Pis ces votes-là sont beaucoup allés se réfugier au Parti québécois. C'est très bizarre parce que la région de Québec, on le sait, c'est une région qui, à la base, est un peu plus à droite. Et l'enjeu qui a fait que la CAQ, le château de cartes, s'est effondré, c'était le troisième lien, alors que le PQ, une position encore pire que celle de la CAQ, est encore plus opposée à un troisième lien autoroutier. Donc, les...
C'est un vote un peu « anything but hein. ». Anything but.
Ils ont rempli comme un vide. Mais à moyen et à long terme, est-ce qu'ils vont être capables, parce que l'élection est juste dans 2 ans et demi, si on était à 3 semaines des élections, c'est pas pire, mais est-ce qu'ils vont être capables de garder ça encore pendant 2 ans, 3 ans? Parce que les gens de Québec, là, quand ils entendent PSPP leur dire qu'il va contrôler les taux d'intérêt, puis les nouveaux acheteurs de maisons vont pouvoir être taux d'intérêt 2-3% plus bas, puis quand ils entendent dire que c'est à faute des épiciers si le prix de la livre de beurre a monté là, au IGA, pas sûr que les gens de Québec achètent ça fort, là. Fait qu'il va avoir de la misère à les convaincre et à les garder avec lui très longtemps, là. Fait que c'est je pense que présentement, le vote du Parti québécois est relativement mou. Et c'est pas. Puis en même temps, c'est normal que ce soit le Parti québécois qui a profité de l'écroulement de la CAQ. Parce que beaucoup de ces gens-là, c'était des gens qui historiquement étaient au Parti québécois. Puis quand tu laisses ta femme, la première chose qui est la plus normale, c'est que tu aies couché avec ton ex. C'est un traditionnel, c'est un classique. Mais c'est très rare que tu retournes vivre et tu te remaries avec ton ex. Ça arrive pas. Donc, là, je pense qu'il y a de l'espoir qu'ils ne resteront pas au PQ longtemps. Puis ils vont se rappeler pourquoi ils ont quitté le PQ il y a quelques années pour aller joindre la CAQ. Fait qu'ils vont se chercher une nouvelle maison ou une nouvelle blonde, dépendamment de quelle image vous voulez prendre. Mais j'ai comme l'impression que ça. Il y a une partie du vote péquiste actuellement là, qui est c'est un parking. Ils sont stationnés là, mais ils attendent d'aller ailleurs. Puis ça va être notre job au cours des prochains mois, des prochaines années, de leur faire une place puis de les accueillir chez nous.
Tu sais, on le sait, là, je reviens à l'Alberta un instant, mais tu vas comprendre le parallèle. Tu sais, l'Alberta, c'est une des provinces les plus riches, sinon la plus riche au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi à une certaine époque d'exploiter leurs ressources naturelles. Ça leur a permis de dégager des surplus importants, des revenus importants, ce qui fait qu'ils ont un taux d'imposition plus bas que le nôtre. Ils ont des budgets équilibrés, ils ont une dette moins élevée. Bon, comprenez l'histoire. Et ce sont des payeurs, ce sont des payeurs nets au Canada, c'est-à-dire qu'eux payent beaucoup plus que ce qu'ils reçoivent en retour du fédéral, contrairement à nous. Là, tu sais, je regarde le PQ avec son budget de l'an 1 qui est déjà à sacré au vidange parce que tu as à l'aube de ce qu'on sait présentement avec les négociations des conventions collectives et de ce qui se passe, les finances du Québec. Bon, personne ne veut le dire, mais soit on s'enligne vers une séquence d'austérité. Austérité entre guillemets, là. Vous comprenez ce que je veux dire, il n'y aura pas de vraie austérité, mais une séance de compression budgétaire où on s'en va vers des hausses camouflées, parce qu'ils n'oseront pas le faire directement, mais ça va être des hausses de tarifs et de taxes camouflées dans toutes sortes de patentes réinventées à la libérale péquiste. Là. Mais justement, ce voyage-là en Alberta, ça n'a pas quelque chose à nous apprendre d'une recette qui est... Tu sais, la recette, on la connaît, là. Plus de liberté économique, plus d'activité économique, plus de création de richesses. C'est comme ça qu'on paye des programmes sociaux. Puis c'est comme ça. Si le Québec veut continuer son modèle social-démocrate à, comme ils disent, investir dans les services publics, moi j'appelle ça dépenser ce qu'ils font, mais eux appellent ça investir, là. Si on veut continuer avec ça, là, on ne pourra pas encore longtemps être contre tout projet de création de richesses. Là. T'sais, on veut donner 20% d'augmentation à tous les fonctionnaires, on veut créer plein de programmes, on veut des assurances dentaires, on veut ici, on veut ça. Mais aussitôt qu'il y a un projet, tout le monde est contre. On ne veut pas qu'il y ait de création de richesse. C'est quoi qu'on peut retenir de l'Alberta par rapport à ça?
Il y a plusieurs éléments dans ce que tu viens de dire qui sont importants. Là. D'abord, au niveau des ressources naturelles, là, si François Legault avait tenu parole, hein, rappelez-vous, là, il avait dit... qui allait exploiter nos ressources, qui allait faire du Québec, la Norvège d'Amérique, qui allait, puis tu sais, le gaz, là, il était très favorable au gaz naturel. Juste si on avait fait ça, cette année, on aurait peut-être des entrées d'argent de plus d'un coffre de l'État de 1 à 2 milliards. T'sais, on aurait créé de la richesse, on aurait plus d'argent qui rentrerait, donc le déficit serait diminué d'autant. Une autre mesure aussi qu'on a, dont on parle très peu, François Legault avait promis de réduire la taille de l'État de 5 000 employés. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Là. Il nous avait dit ça. Aujourd'hui, il y a 55 600 employés de plus au service de l'État. Okay? Juste cette mesure-là, c'est 5 milliards de dollars annuels récurrents. Okay? S'il avait tenu parole plutôt que de céder au syndicat puis d'embaucher 55 000 personnes plutôt que d'en congédier 5 000, juste ça, juste ces deux mesures-là. On a même pas commencé à faire, entre guillemets, de l'austérité, puis on n'a pas rien. Juste s'il avait respecté deux engagements, on serait en période de surplus. On nagerait dans les surplus présentement au Québec. OK? Fait que c'est, quand ils disent, là, que, tu sais, c'est malheureux, là, mais il y a rien, puis on peut rien faire, puis que c'est, là, on est pris dans un cul-de-sac, c'est une impasse, puis il faut soit augmenter les taxes ou il faudrait augmenter le déficit, puis là. Non, non, c'est pas ça. Il fallait tenir parole. Si on avait juste tenu parole, on nagerait dans les surplus comme en Alberta. Ce matin, il y a un article de Paul Journet dans la presse, puis c'est assez révélateur, là. Il explique que il parle là, de ce comment c'est, si on est dans la merde financièrement, puis il revient sur la déclaration de François Legault que le budget va être largement déficitaire. Mais il dit aussi que le paysage politique a changé depuis que M. Legault a fait ces promesses-là, parce qu'il dit, il y a juste, et puis là je le cite, là, le Parti conservateur du Québec est le seul à prôner le conservatisme fiscal, mais il n'a pas de député. À l'Assemblée nationale, aucun parti de l'opposition ne se battra pour rééquilibrer le budget d'ici 5 ans comme c'était initialement prévu.
C'est pas le journée,
ça? Ça, pas, ouais. Il dit lors de la dernière campagne électorale, les libéraux projetaient même des déficits plus élevés que ceux de la CAQ. Autrement dit, ils vont accuser Legault de ne pas aller encore assez loin malgré le fait qu'il est en train de mettre dans la merde jusqu'au cou financièrement. Puis il n'y a pas de voix conservatrice pour lui dire un instant, là, il faut réduire la taille de l'État, il faut donner du répit aux contribuables, puis il faut exploiter nos ressources ou il faut réduire les dépenses. Il n'y a pas. Puis pourtant, tous les chiffres, là, puis ils ont même sorti les chiffres là, de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de Luc Godbout, qui explique comment la taille de l'État québécois dans l'économie a augmenté, puis comment l'écart entre le Québec et le reste du Canada a augmenté sous François Legault. Fait que les gens qui pensaient qu'en votant à CAQ, on aurait un gouvernement efficace, les gens comme Joé et moi, là, qui étions à que bon, on votait CAQ, là, puis qu'on pensait que ça allait être quelque chose de positif, là. Ben on est des cacus big time, là. Puis parce que c'est les syndicats qui ont gagné, c'est l'approche très à gauche qui a gagné. Puis Paul Journet finit même sa chronique, c'est assez bizarre. Il écrit on s'en sortira pas, il faudra un plan. Il dit, ça prend un plan au retour à l'équilibre budgétaire. La loi le requiert, les prêteurs sur les marchés financiers l'exigeront également. Pour la CAQ, le casse-tête s'intensifie et il rattrapera aussi les autres partis qui seront pris avec les mêmes dilemmes quand ils présenteront leur vision à la prochaine campagne électorale. Je peux dire que nous autres, on n'aura pas ce dilemme-là là, parce qu'on a déjà présenté un budget équilibré et on va continuer à le faire.
Ça me choque tellement entendre ça. Là. T'as pas idée comment ça me choque. Parce que Christy, c'est des affaires qu'on dit depuis des mois et des années dans notre cas. Puis on passe tout le temps pour des débiles. Écoute, je me rappelle, j'étais au budget avec toi l'année passée. On a eu Éric Girard qui est venu. J'y ai posé la question directement, là. Est-ce que vos hypothèses de votre budget sont pas un peu des hypothèses de licorne? Les fonctionnaires vont accepter l'offre telle quelle, 9,9%. Il n'y aura pas de récession au Québec. Les taux d'intérêt vont diminuer en 2023. C'était ça les hypothèses du dernier budget. Là, aujourd'hui, tout le monde sort dans les médias, puis « Hey, ça n'a pas d'allure, on va faire un gros déficit. » Ben voyons, toi, Sherlock,
personne n'avait vu ça venir.
Il n'y a personne qui avait vu ça venir. Non, mais moi, ça m'insulte, puis ce qui est tannant aussi au Québec, c'est que quand tu arrives et tu parles de développement économique, tu es là, tu te dis, OK, je suis allé en Alberta, j'ai vu des choses, tu as le goût de parler de développement économique. Dans les médias québécois, et pas la population, puis je vais vous montrer un graphique à l'écran qui appuie ce que je dis, mais dans les médias québécois, faire du développement économique, c'est faire ce que Fitzgibbon fait, c'est faire de la subvention. Mais les Québécois, ils ne pensent même pas ça. Quand on regarde, c'est un peu un sondage de Léger qu'on voit ici. Je suis favorable à l'utilisation des fonds publics pour accorder d'importantes subventions à de grandes entreprises. 72% des gens sont contre. Mais c'est juste ça qu'on fait. Le seul développement économique qu'on nous dit faire au Québec, c'est de donner des subventions à des grandes entreprises. On ne nous parle pas de baisser les impôts des entreprises. On ne nous parle pas de baisser la réglementation des entreprises. Non. On ne nous parle jamais de trucs de ce genre-là. Ouais. On fait juste parler des subventions.
Puis Legault, avant de repasser la parole à Éric, Legault essaie de nous emprisonner dans ce faux dilemme-là. Soit vous êtes avec les écolos radicaux qui sont contre Northvolt, ou vous êtes avec nous et vous êtes pour la création de richesses. Mais le débat n'est pas là. Le débat, c'est est-ce que le Québec est open for business pour tout le monde, puis qu'on veut qu'il y ait de l'activité économique, ou est-ce qu'on est close for business, sauf pour ceux qui vont à l'île aux faisans et qui sont amis avec Fitzgibbon, qu'eux autres, dans le fond, vont avoir, on va passer par-dessus le BAP, on va passer par-dessus tout. Vous autres, vous pouvez avoir un fast track, mais Luc Poirier, qui avait le terrain, lui, 6 mois avant, se faisait dire non pour un parc immobilier. Il est là le problème. Là. C'est pas une question. Il est direct là le problème.
Hier, je ne sais pas si vous avez vu la réplique. D'abord, j'ai été surpris. Hier, M. Fitzgibbon, lui, il a le droit de répliquer quand il y a des articles dans la presse. Qui j'ai été très heureux. Je le félicite. Il est meilleur que moi. Il est capable d'avoir un droit de réplique de la presse. Là. Mais si vous lisez sa réplique, c'est tout à fait ça, Frank. Là. C'est des écolos qui veulent empêcher le développement versus les gens qui connaissent ça, le développement économique, puis qu'eux autres vont créer de la richesse au Québec. Moi, si je compte Northvolt, ça n'a pas rapport avec l'environnement, ça a rapport avec l'économie. Ce projet-là, c'est un risque. Puis c'est les contribuables québécois qui sont en train de le prendre. Ça pourrait être le plus gros fiasco financier et économique de l'histoire du Québec. On est en train de mettre 4 milliards sans qu'il y ait de débat. Puis il n'y a aucun parti à l'Assemblée nationale qui se lève pour dire un instant, c'est l'argent des contribuables que vous êtes en train de mettre là-dedans. Ce n'est pas le job du gouvernement de taxer les autres entreprises puis de donner ça tout à une entreprise étrangère, Northvolt, pour prendre un risque. Peut-être ça pourrait être une bonne filière à l'avenir. Je veux dire, puis regarde, je m'embarquerai même pas dans le débat, est-ce que oui ou non, là, sont en bonne filière, est-ce que oui ou non, sont en retard. C'est ça, là, c'est une autre affaire, là. Je suis pas spécialiste là-dedans, puis je pense que Fitzgibbon ne l'est pas non plus. Mais ils ont l'air à penser qu'ils sont meilleurs que les investisseurs pour savoir comment faire fructifier de l'argent. Puis c'est ça qui est dangereux dans le cas de Fitzgibbon. C'est ce que moi, s'il prend son argent à lui personnellement, puis qu'il le met dans Northvolt, j'ai pas un problème avec ça, j'ai pas un mot à dire. Puis s'il fait bien de l'argent, je vais être bien content, puis je vais me battre pour qu'il paye le moins de taxes possible sur l'argent qu'il va faire. Cela étant dit, en attendant, son job comme ministre, c'est de s'assurer qu'il ne fait pas de gagnant ni de perdant. Il ne commence pas à choisir qui va gagner et qui va perdre. Il s'assure qu'au Québec, on a un climat d'affaires, que toutes les entreprises sont gagnantes parce que tout le monde va payer moins de taxes et d'impôts, puis les règlements vont être moins emmerdants qu'ailleurs en Amérique du Nord. C'est ça le job d'un ministre du développement économique. Mais lui, il se prend pour un investisseur plus intelligent que les autres, avec l'argent des autres qui vont investir, puis que s'il coule, il s'en fout parce que lui, il va se laver les mains, il va se dire « je suis plus là », il va s'en faire longtemps. Qui va avoir perdu ses élections. C'est ça qui est déplorable. Puis ça fait, je sais pas combien ça fait d'années qu'au Québec, on est pogné dans ce modèle-là. Puis on dirait qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. On répète encore tout le temps le même pattern de penser, tu sais, que le gouvernement est mieux placé que les autres. Puis on est un gouvernement qui est plus pauvre, entre guillemets, là, dans le sens où les revenus des travailleurs québécois sont, par exemple, beaucoup moins élevés que les travailleurs albertains que j'ai vus la semaine passée. Mm-hmm. Mais pourtant, on est un gouvernement qui, en pourcentage de l'économie, investit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en donnant des subventions. Pareil comme si le plat de bonbons était rempli plus qu'ailleurs. C'est ça qui est hallucinant et qui est complètement incompréhensible.
Dans les dernières semaines, Éric, Vincent Gélozo nous a fait réaliser vraiment une thématique, je pense, qui n'est pas assez utilisée à droite. Puis c'est quelque chose que je voulais te parler, surtout que ça touche quand même l'Alberta. On a connu le gouvernement de Ralph Klein à l'époque, où est-ce qu'il y a eu des méga coupures de leur côté. Et évidemment, le temps a passé, l'eau a coulé sur les ponts et on a du data maintenant. On est capable de voir l'efficacité de ces mesures-là à l'époque. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la mobilité sociale, puis ça, je pense que c'est un concept qu'on ne connaît pas assez au Québec, la mobilité sociale. C'est un concept que la droite aurait avantage à mettre de l'avant beaucoup plus. Grosso modo, c'est quoi? C'est que quelqu'un, par exemple, que son père était dans le 5e quintile, il était dans le 20% des plus pauvres au Québec, c'est quoi la probabilité que son fils dans le futur, se ramasse dans le 3e, dans le 2e, dans le 1er quintile, par exemple. Plus la probabilité est grande, plus il y a de la mobilité sociale au Québec. Donc, c'est pas parce que tu es pauvre que tes enfants vont être pauvres. Il y a la possibilité de grimper dans l'ascenseur social. Alors que la gauche nous parle toujours de redistribuer la richesse, qui est fondamentalement un mauvais concept dans ma tête. La richesse, le but, c'est pas de la redistribuer. Le but, c'est d'avoir la capacité d'y accéder. On veut que tu aies le champ libre, on veut que tu aies la liberté d'y accéder éventuellement. Donc, si tu travailles fort, le rêve américain, si tu travailles fort, tu peux toi aussi développer tes trucs. Moi, c'est quelque chose qui m'avait touché beaucoup personnellement. Puis je pense que, tu sais, je connais ton père, Eric, je connais ta mère, c'est des bons cols bleus. Tu regardes le succès que tu as dans ta vie aujourd'hui. Tu es un exemple toi-même de mobilité sociale. Moi, personnellement, je suis un exemple de mobilité sociale aussi. Il y a plein de gens dans nos auditeurs qui en sont. L'Alberta a des chiffres de mobilité sociale qui sont spectaculaires par rapport au Québec. La recherche de Vincent Gelozo la semaine passée, la semaine passée avec l'IEDM, le démontre quand même bien. Comment on fait au Québec pour faire apprécier un peu plus ce concept de mobilité sociale-là aux Québécois?
Écoute, c'est une très bonne question que tu soulèves là, Yann, puis je vais prendre un exemple, tu comprendras pourquoi je pars avec ça, mais c'est important de le comprendre. Je vais partir avec la question du logement, parce qu'évidemment, on a une crise du logement, pas juste au Québec, partout, là, mais particulièrement au Québec. On a eu un débat au Québec sur la crise du logement. Puis, pour comprendre, faire un parallèle entre la mobilité sociale et le logement, là, comprenez que la gauche réclame du logement social, okay? Il voudrait que le gouvernement investisse dans du béton, puis qu'on offre des logements à rabais, payés en partie par les contribuables. C'est toujours ça, la solution. Quand il y a une crise du logement, là, puis vous allez voir que ces mêmes gens-là, puis c'est ça qui est dangereux, étant donné qu'ils ne comprennent pas le concept de mobilité sociale ou qu'ils ne veulent pas en tenir compte, ils vont dire qu'il ne faut pas construire des tours avec des appartements à 500 000 ou des maisons à 1 million, parce que, ou même du locatif, c'est à du 2-3 000 par mois, parce que les pauvres n'y ont pas accès. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à régler le problème du logement social, parce qu'ils ne comprennent pas que la personne qui part d'un appartement, justement, qui a payé 1 000 par mois, puis qu'elle s'achète un condo à 300 000, qui, la personne qui a vendu le condo à 300 000, elle s'en achète un à 500 000, puis celui qui s'achète, il vend son condo à 500 000, s'achète une maison à 1 million, bien, ils comprennent pas que quand tu construis la maison à 1 million, tu libères justement le condo à 500 000, qui lui libère le condo à 300 000, ouais. Qui lui libère le loyer à 1 000 et ainsi de suite. Là. C'est la mobilité sociale, là. C'est quand tu comprends ce concept-là, tu comprends que la crise du logement, il faut construire le plus de tout. Et présentement, parce qu'on ne comprend pas ce concept-là, on focalise juste sur le logement pas cher, puis on est en train de passer complètement à côté. On va exacerber la crise du logement à moyen et à long terme, puis on va garder captifs des gens dans des appartements plus pauvres que si on avait de l'ambition et on voyait grand. C'est
et je me trompe, le logement, justement, en Alberta, c'est pas un grand enjeu de leur côté parce qu'Edmonton et Calgary, qui sont fondamentalement des villes riches, remplies de gens qui font des salaires en haut de 100 000, ne vivent pas la crise du logement comme partout ailleurs au pays de leur côté. Là.
Ils construisent. La première, ils n'ont pas Bruno Marchand puis Valérie Plante. Là, c'est sûr que ça, en partie, ça aide. Là. Mais je ne veux pas dire les mots de comment on peut les qualifier.
Ah, dis-les, baptême, ils sont incompétents, Eric! Colin, dis-les! Ils sont!
Tu sais que moi, je suis gentil.
T'es trop gentil des fois, man.
Non, mais c'est parce que pour moi, c'est de l'incompétence, leur gestion. Mais tu sais, personnaliser ça, je le sais que je devrais peut-être des fois, puis ça ferait plus les manchettes. Mais c'est sûr que je considère que c'est de l'incompétence. Quand j'entends William Trudel ici à Québec nous parler que ça coûte 500 par mois, juste la surréglementation, puis toutes les barrières qui se mettent dans les roues par la ville de Québec. Après ça, il dit, il faut que j'offre du logement à prix abordable. Comment tu veux que j'offre abordable? J'ai même pas mis une brique dans mon logement. J'ai juste acheté un terrain. Je suis déjà rendu à 500 par mois avant même d'avoir investi une scène et d'avoir fait une scène de profit. Fait que tu sais, c'est pas... Ça, c'est une autre raison aussi. Là. En Alberta, là, j'ai même pas vérifié les affaires municipales, mais je suis sûr et certain que je regardais le prix par rapport au salaire, comme Yann vient de le dire. Là. C'est sûr et certain qu'ils n'ont pas 500 de barrière bureaucratique municipale par mois à payer. Là. Et je suis plus convaincu que si on faisait une recherche pour les délais, combien de temps ça prend, les délais de construction en Alberta, je suis convaincu que quelqu'un, il n'est pas pogné comme ça à Québec quand il achète un terrain, ça lui prend 5 à 7 ans avant de pouvoir commencer à arriver avec une pépine et commencer à creuser. Là. Fait que c'est, je veux dire, on est pris dans un modèle bureaucratique. Puis pour revenir à ta question de base, parce qu'elle est super importante, puis tu as peut-être raison, peut-être qu'il faudrait que ça soit un des indicateurs les plus importants qu'on met de l'avant, mais la mobilité sociale, c'est l'idéal de tout le monde. C'est facile à comprendre parce que c'est l'idéal, je pense, des parents. À la base, là,
exactement.
T'es supposé que quand tu mets un enfant au monde, là, ton objectif, c'est qu'il te dépasse. C'est pas qu'il soit moins bon que toi, là. Et on est, tu sais, on le sait, là, c'est la première génération dans l'histoire du Québec où ça sera pas le cas, hein. On a une génération de jeunes, là, la gang à jouer, puis ceux qui vont suivre, là, ils vont vivre plus pauvres que leurs parents. Puis la question du logement, c'est un autre bel exemple. ça continue comme c'est là, l'écrasante majorité de ce monde-là, à moins qu'il y ait un papa à un moment qui leur donne un héritage, là, ils n'auront même pas les moyens de s'acheter une maison, ils vont être locataires toute leur vie. Là. Donc, mais j'ai compris une chose en politique depuis plusieurs années, c'est que c'est très difficile de convaincre des gens en parlant du bien-être de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. C'est beaucoup plus facile de les convaincre de parler de leur bien-être actuel à eux. Et il y a comme... Alors que comment être humain...
Moi, j'ai toujours entendu dire que les gens, s'ils avaient d'abord à cœur le bien commun, puis que c'est juste nous autres à droite qui sont égoïstes, puis individualistes. C'est drôle, hein, ce que tu dis là. Moi, je trouve que ça rentre en contradiction un peu avec ce qu'on entend d'habitude.
T'as raison que c'est pas le discours officiel dominant, mais l'action politique, là, puis regardez, là, regardez juste qu'est-ce qui se passe par rapport au gouvernement Legault. Puis lisez ce matin le Francis Veil ou Journet ou même Radio-Canada fait une bonne analyse. Je pense que c'est Hugo Lavallée là, qui fait une analyse aussi là-dessus ce matin sur le budget. Tu vois que la crainte du gouvernement, c'est comment ne pas augmenter les impôts puis ne pas réduire les services. Comment on peut faire pour que le plus possible, on envoie ça sur la dette. Puis qu'on on endette encore plus les générations futures. C'est carrément ça le calcul de la CAQ à l'heure actuelle. Pis c'était ça aussi en campagne électorale. Puis écoutez, ils ont retardé l'équilibre budgétaire. Ils ne respecteront pas leur propre loi sur l'équilibre budgétaire. Puis on est déjà dans une situation où on a fait en sorte qu'une génération va être plus pauvre que celle de ses parents. La mobilité sociale, là, Yann, je suis obligé de te dire que moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que les enfants du Québec vont avoir des parents comme toi puis moi qui sont dans la classe moyenne, moyenne supérieure, puis leurs enfants vont vivre dans la classe moyenne inférieure ou pauvre. C'est la mobilité, si on continue de la façon dont on est parti là, c'est vers là où elle va aller. Là. Puis c'est ça qui est inquiétant. Puis c'est pas quelque chose qui est arrivé par accident. Là. C'est quelque chose qui est planifié. C'est ça qui est grave. C'est que ça a été politiquement intentionnel. Puis là, on est rendu là. On le dit depuis des années, ça aussi. Là, l'ADQ existait à cause de ça. Mario Dumont, c'était son principal discours à l'époque. Là. C'était « on va pas hypothéquer la prochaine génération pour acheter la prochaine élection ». Ils ont fait ça malheureusement depuis quelques décennies, puis aujourd'hui, on vient avec le résultat.
Mais peut-être en terminant, là, une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt, puis je suis dans l'article justement que tu parlais de Hugo Lavallée, là. Il dit quelque chose vers la fin du podcast. Il dit François Legault vers la fin de l'article, il dit François Legault ne compte visiblement pas faire la même erreur que Philippe Couillard qu'il avait commise lorsqu'il était au pouvoir. L'ancien premier ministre avait considérablement réduit ses chances d'être réélu en comprimant au minimum la croissance des dépenses publiques, ce qui avait suscité de vives critiques dans presque tous les milieux de la société. J'aurais plutôt envie d'enlever ça, d'enlever milieu par rajouter juste média. Là. Mais nous, on l'a reçu ici, là, Philippe Couillard, en entrevue. Donc, on est assez bon pour recevoir M. Couillard, mais pas assez pour recevoir M. PSPP, visiblement. Mais ce qu'il nous avait dit un moment donné, je m'en rappelle de cette phrase-là, il nous avait dit « Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le prix qu'on me fait payer à mon gouvernement juste pour essayer d'être responsable fiscalement, il y a peu ou peut-être pas de gouvernements dans l'avenir qui vont vouloir le payer. Parce que ce qu'on a fait, puis on peut reprocher 50 000 affaires aux libéraux de l'époque, le virage green, plein de patentes, les autos électriques, on peut dire ce qu'on veut. Mais sur l'aspect fiscal de la responsabilité...
Les budgets de Carlos Letao étaient 100 fois plus responsables que ceux d'Éric Girard. Je pense que personne ne peut dire le contraire.
Personne ne peut dire le contraire. Mais ce qu'il disait, puis il avait raison, Philippe Couillard, quand il nous disait ça, il disait là, le problème, là, c'est qu'on a associé ce que j'ai fait à de l'austérité, qu'on a associé austérité à « c'est pas bon ». Et là, les prochains gouvernements qui vont être face aux mêmes défis. Parce qu'oubliez pas que la CAQ s'est fait élire, il y avait des milliards de surplus à la table, puis ils ont pu s'amuser avec ça. Là. C'est bien le fun de donner des augmentations à tout le monde, puis bien paraître, puis dépenser l'argent. Mais quand c'est le fruit des économies de quelqu'un d'autre, t'as toujours l'air intelligent, toujours l'air brillant. Mais là, il n'y en a pas d'économie. Là. Il y a des déficits. Là. Ben là, il ne veut pas s'enligner dans la même. Prendre la même recette que celle des libéraux, qui nous ramènerait au minimum à un équilibre budgétaire, en tout cas dans un horizon raisonnable, parce qu'il ne veut pas voir sa face dans le journal écrit Legault égale Couillard 2.0, Legault nous amène dans l'austérité, tout ça. Mais j'ai envie de te dire qu'au point où ils en sont, avec le PQ qui va vraisemblablement les remplacer, en tout cas si la tendance se maintient, qu'est-ce qu'ils ont à perdre?
C'est une bonne question.
Ils devraient faire ce qu'ils doivent faire au lieu de puis sortir de la petite stratégie au jour le jour de « Ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce que Mario Dumont va dire de moi ou qu'est-ce que José Legault va écrire sur moi? » Non, mais là, on n'est plus là. Là. Il y a pas, ils sont élus majoritaires. Non, mais je pense que c'est une vraie question à poser. Là. Ils sont élus majoritaires. Il reste presque 3 ans d'ici la fin du mandat. Là, soit vous faites ce que vous avez à faire ou vous continuez à niaiser au jour le jour de qu'est-ce qu'elle sera ma couverture dans la presse si je fais telle affaire. Là,
je comprends très bien ta question, mais malheureusement, tu n'aimeras pas ma réponse parce que ils ont... Puis c'est vrai, là, son, il va strictement de façon logique, ça serait la chose à faire, de dire, gars, on va remplir notre engagement. OK? On s'excuse, là, on a embauché 55 000 fonctionnaires, on avait dit qu'on en congédierait 5 000, mais on va en congédier 60 000 parce que c'est ça qu'il faut faire si on veut atteindre le montant qu'on avait dit au départ. On avait dit qu'on ferait un budget équilibré, on s'est planté, on est rendu avec 5-6 milliards de déficit, on va ramener ça à zéro. Ça serait la chose logique à faire, mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que le parti de François Legault, c'est ce qu'on voit de plus en plus après 5 ans au pouvoir, ils appellent ça une coalition. Mais en fait, ce que c'est tout, n'importe quoi et son contraire. C'est un parti qui n'a pas de cohésion, qui n'a pas de vision. François Legault, il n'a pas perdu sa boussole. François Legault n'a jamais eu de boussole. La seule boussole qui a orienté François Legault et qui continue à l'alimenter, c'est celle de vouloir être premier ministre. Mais en termes de principe, en termes de vision, il n'y en a aucune. Quand François Legault était au Parti québécois, il était le péquiste le plus pressé de faire l'indépendance du Québec. Il était même prêt à passer par-dessus tout ce qu'il fallait pour l'atteindre le plus rapidement possible. Après ça, il est passé à l'autre bout complètement. Il est devenu un gars qui s'écrase devant Ottawa, qui envoie des petites lettres à Justin Trudeau puis qui se font quasiment des mamours. Je veux dire, puis ça a été comme ça dans tout. Il est passé d'un gars qui nous avait dit qu'il allait exploiter nos ressources naturelles, qu'on allait faire du Québec la Norvège d'Amérique, à passer un projet de loi pire que tous les gouvernements qui l'ont précédé pour empêcher toute forme d'exploitation et même d'exploration de gaz et de pétrole sur le territoire du Québec. Je veux dire, c'est un gars qui est passé de dire qu'il allait finir, il allait jamais avoir de déficit. Il a engrangé les pires déficits de l'histoire du Québec. C'est un gars qui nous a dit qu'il allait régler les problèmes de santé. L'attente a doublé dans le système de santé depuis qu'il est là. Je pourrais continuer à lire jusqu'à demain, là, mais ça a été une fraude. Je veux dire, on a voté pour quelque chose, puis on a eu exactement le contraire. On pensait de voter pour un meilleur gouvernement, puis on a voté pour le pire gouvernement probablement de l'histoire du Québec. Puis tout ça parce que c'est un gouvernement de marketing, de sondage, mais qui a aucun principe. C'est pas. Puis il pourra pas le faire parce que son équipe, d'un côté, t'as un Bernard Drainville qui a le goût de crier go, go, go au PQ, puis on veut un pays. Puis de l'autre bord, t'as un Éric Girard qui sortait du Parti conservateur de Stephen Harper. Puis de l'autre bord, t'as tous ses conseillers qui sont tous des anciens apparatchiks péquistes. Puis après ça, t'as Geneviève Guilbeault qui est arrivée du Parti libéral du Québec, puis t'as sa directrice générale qui arrive du Parti libéral du Canada. Fait que tu sais, à un moment donné, là, quand t'as un corps de chèvre avec des pattes de lapin, puis t'as des oreilles de cochon, on veut dire, ça te donne une espèce d'affaire que tu peux plus rien faire avec ça. Là.
Monsieur Patate.
Mais c'est un peu ça, la CAQ.
C'est Monsieur Patate.
C'est du patchwork d'un peu tout, puis ça a donné quelque chose qui n'a pas de bon sens. Puis aujourd'hui, on constate le désastre. Puis on ne l'a pas vu pendant le premier mandat. En tout cas, on ne l'a pas vu autant, parce qu'on parlait juste de la crise sanitaire. Puis c'est drôle, hein, mais tu sais, on dit que la crise a usé ce gouvernement-là. C'est pas ça. La crise a sauvé le gouvernement, parce que d'après moi, il aurait fait juste un mandat, il n'aurait pas fait deux s'il n'y avait pas eu la crise.
Oui, probablement. Éric, c'était super le fun. On va te garder pour la partie Patreon, parce que tu as un sujet qui te tenait à cœur. Tu voulais en parler, c'était Preston Manning. Tu as participé à son podcast. Je sais que c'est un sujet qui est un peu plus pour les geeks politiques. Ça donne bien. On a 2000 Patreons qui sont assez geeks. Fait que je pense qu'on va parler de ce sujet-là de l'autre côté de la clôture. Puis peut-être un peu plus de régie interne au niveau du PCQ, parce qu'évidemment, on est entre nous autres. C'est bien plus facile à ce moment-là.